Chapitre 43. Assise dans la neige, Khadija devait se résigner à l'évidence. Sa sœur n'était plus. Benjamin avait perdu sa trace un demi-siècle temps terrestre plus tôt, soit 20 années après son départ. Elle était restée en fréquence tribale au début, puis ses communications s'étaient brouillées, comme perturbée par l'atmosphère de la Terre. Et après un dernier échange, où elle avait tenté d'exprimer cette notion inconnue qu'était la souffrance, elle s'était définitivement tue. La mort pourtant n'était pas inscrite dans le futur dessein. Khadija recevrait bientôt son nom d'éternel, mais elle s'était habituée à celui que lui avaient donné Ismaïl et ses amis. Elle commençait de même à s'accoutumer à la souffrance, un concept absent de sa mémoire mentale et organique, qui la cernait à la façon d'une prédatrice omniprésente et tenace. Souffrance physique d'abord, la gravité qui plaque au sol, qui sollicite sans cesse muscles, organes et nerfs. Souffrance morale ensuite, le frottement blessant avec les émotions, les sentiments, le passé des hommes. Bien que reliée en permanence à la fréquence de Benjamin, qui pouvait ainsi analyser ses réactions et lui proposer les réponses appropriées, elle se sentait coupée des siens, fragmentée, abandonnée. Elle se demandait si les 11 tribus installées sur Terre ou dans les profondeurs océanes éprouvaient les mêmes sensations qu'elle, bien que le temps approchât du rassemblement des saints dans leur nouvelle demeure. Elle ne savait rien des autres tribus. Conformément aux préceptes de l'eschato, elles avaient cessé de communiquer entre elles pour poursuivre dans le silence l'œuvre de purification qui engendrerait des êtres irréprochables dignes de l'arbre de vie. Pouvait-on réellement s'affranchir des lois de la terre? De cette course incessante contre le temps qui avait entraîné les hommes à leur perte? Benjamin avait estimé que la sœur envoyée en reconnaissance 70 ans plus tôt avait été victime de son manque de préparation. Mais même en jouissant d'une immunité renforcée, Khadija avait elle-même conscience de perdre un peu de son intégrité à chaque seconde qui s'écoulait. Elle ne s'était pas portée volontaire, car le concept de volonté ou d'affirmation du « moi » ne revêtait aucune signification au sein de la tribu. Mais l'analyse avait montré que ses aptitudes génétiques en faisait l'élément le plus qualifié pour partir à la recherche de la sœur disparue. Elle avait été installée, après une préparation méticuleuse, dans l'un de ces tubes à énergie solaire qui serviraient bientôt à conduire les saints dans leur nouvelle et dernière demeure. Benjamin avait profité de l'occasion pour vérifier la fiabilité du système de transport qu'il avait mis au point en se servant à la fois de la science des hommes et de ses propres connaissances. En état cataleptique, elle n'avait gardé aucun souvenir d'un voyage qui avait duré 3 jours temps terrestre selon sa chronologie interne. Lorsqu'elle s'était réveillée dans la demeure d'Ismaïl et de ses amis, elle avait reçu un tel choc qu'elle s'était révélée incapable de réagir, de synchroniser ses ressources mentales et physiques. Allongée sur un matelas d'où montait une odeur oppressante, offerte à leur regard, comme les femmes de l'ancien temps soumises à la concupiscence des hommes, elle avait mis 2 jours à s'adapter, à modifier son métabolisme, à se familiariser avec la gravité, l'épaisseur de l'air, la grossièreté vibratoire de ses hôtes humains. Puis 1 semaine supplémentaire pour découvrir et maîtriser les fonctions principales de son corps écrasé par la pesanteur. Une fois habituée à son nouvel environnement, elle avait capté la présence de sa sœur, une sourdine lointaine, un frémissement ondulatoire, un écho étouffé du cœur de Benjamin. Elles étaient marquées du même sceau. Et bien qu'agressées par la densité de l'atmosphère, bien que séparées par l'espace et le temps, elles s'étaient aimantées comme 2 particules de charge opposée assez puissantes pour s'attirer à des centaines de kilomètres de distance. Elle s'était mise en route, pressée de quitter la demeure souterraine d'Ismaïl et de ses amis. Elle avait d'abord piqué tout droit vers la mer Méditerranée, puis traversé le marais du littoral en direction de l'ouest. Curieusement, elle avait pris goût à la marche, aux caresses de l'air froid sur sa peau, au spectacle envoûtant de l'eau calme et lisse qui reflétait nuages, soleil, sentiers et végétation. À cela non plus, elle n'avait pas été préparée. La beauté paisible du marais ne correspondait en rien aux images de destruction, de barbarie, de désolation que sa mémoire gardait de la terre. L'empreinte ondulatoire de sa sœur s'était subitement effacée. Alarmée, Khadija s'était immobilisée au milieu d'un sentier envahi d'herbes noires et était restée un long moment en symbiose avec Benjamin. L'analyse globale n'avait pas apporté d'éléments nouveaux, sans doute parce que la tribu était aussi perturbée qu'elle. Et puis, c'était à elle, l'envoyée, de prendre des initiatives, de surmonter les difficultés dont la fraternité, là-haut, ne saisissait pas toutes les données. Elle avait donc décidé de poursuivre en direction de l'ouest, parcourant des dizaines de kilomètres sans s'arrêter, fascinée par les scintillements de la mer qui apparaissaient de temps à autre entre les buissons et les bosquets d'arbres torturés. La nuit l'avait enveloppée comme une cape sombre. Des milliers d'étoiles s'étaient allumées dans le ciel et dans l'eau. Vue d'en bas, l'immensité cosmique prenait une toute autre dimension. La différence se faisait flagrante, criante, entre la légèreté du vide et l'attraction terrestre. L'univers se réduisait soudain à cette vision géocentrique qui avait de tout temps maintenu les hommes dans le culte de leur propre importance. La gravité n'avait pas seulement rivé leur corps à la croûte terrestre, mais également leur esprit. Comment le leur reprocher? Si l'escato n'était pas venu délivrer ses enseignements, les tribus elles-mêmes n'auraient pas échappé à cette matérialisation, à ce durcissement inéluctable de l'être. L'univers entier était condamné au refroidissement. Et l'esprit, cette trace du feu primordial, devait être sauvegardé dans une enveloppe appropriée, délivré de la hantise du temps, s'il voulait conserver son incomparable fluidité. Les cris des crapauds et des rapaces nocturnes avaient bercé le rythme de ses pas et le balancement de ses bras. Le soleil levant avait éclaboussé le marais de lumière. Émerveillé par la splendeur des mares enflammées qui se fragmentaient à l'horizon comme les facettes d'un immense joyau, elle avait tenté de transmettre ses impressions à Benjamin. L'analyse lui avait renvoyé un écho laconique. Ne pas se laisser distraire par les mirages terrestres. Rester concentré sur la mission. Ismaïl l'avait retrouvé au milieu du jour à l'aide de son glisseur pétaradant et puant. Elle avait accepté sa robe et sa compagnie, toutes les deux dérangeantes, parce que, Benjamin le lui avait confirmé, l'association avec un humain augmentait les probabilités de réussite. Puis, après quelques heures de marche silencieuse, une nuée de sauterelles génétiquement modifiées s'était déployée derrière eux comme un filet gigantesque et bruissant. Elle avait décelé l'empreinte de l'escato dans l'apparition des insectes venimeux. Ismaïl avait poussé un cri et s'était mis à courir pour essayer d'échapper au fléau. Khadija, elle, avait d'abord évalué le danger et cherché la réponse adéquate dans la symbiose. La réponse, en tout cas, qui lui coûterait le moins d'énergie. Elle avait la possibilité, en cas de piqûre, de neutraliser l'action du venin en activant la fonction détoxicante logée dans son foie. Mais le nettoyage de son sang nécessiterait une catalepsie de 3 jours. Elle avait donc opté pour la fuite, comme le vieil homme. Elle l'avait rapidement dépassé, puis elle avait ralenti sa course pour l'attendre.
« Des bruits de moteur !»
avait hurlé Ismaïl, essoufflé, en sueur. Un engin roulant était apparu au loin quelques minutes avant que les sauterelles opèrent la jonction. C'est ainsi que Khadija avait fait la connaissance des deux aquariotes, Solman et Tchak. elle s'était immédiatement rendue compte qu'elle exerçait un désir irrépressible chez le chauffeur, comme s'il recherchait la fusion éblouissante à travers elle, de la même façon que particules et antiparticules s'annihilent en une mort de lumière. Elle n'avait pas eu le temps de s'en troubler. La vision de Solman l'avait visitée, transpercée, et le temps du passage de la nuée l'avait envoûtée avec la même suavité que l'eau des marais captivait les nuages, la lumière et les roseaux. Son chant, à la fois beau et triste, avait éveillé des sensations inconnues en elle, l'avait reliée avec des souvenirs d'avant sa conception, d'avant l'éternité. L'escato dépeignait pourtant les humains comme des créatures laides, corrompues, grossières, souillées, qui, à l'image symbolique des deux premières d'entre elles, méritaient toutes d'être bannies de l'Éden. Les hommes, les fils bien-aimés de la chaleur originelle, avaient saccagé leur écrin, cédé aux pulsions bestiales, concouru au refroidissement de l'univers, à l'extinction de toute étincelle de vie. Comment se faisait-il en ce cas que l'esprit de l'un d'eux, un infirme, un impur, eut assez de fluidité et de puissance pour passer à travers elle comme une radiation primordiale, pour ouvrir des brèches sur le rempart d'oubli qui délimitait sa mémoire, sa conscience, ses connaissances. Elle avait pris peur, et les jours qui avaient suivi son arrivée chez les aquariotes, elle avait évité Solman. Elle s'était retranchée aussi loin que possible en elle-même, s'engourdissant dans une sorte de léthargie mentale et laissant son corps agir à sa place. Benjamin était également demeuré neutre, perplexe, dans l'expectative. Il attendait d'en savoir un peu plus sur la première sœur disparue pour lui délivrer ses instructions. L'intrusion de Chuck dans la voiture avait brusquement tiré Khadija de son inertie. Lui était un homme comme les décrivait l'escato, presque rassurant dans sa normalité, dans sa bestialité. Un moment interloqué, elle avait fini par trouver la riposte adéquate, sans colère, seulement tendue vers l'efficacité. Lui tordre les testicules ne lui avait procuré aucune sensation particulière. C'était une expérience comme une autre sur un tissu vivant, un phénomène classique d'action-réaction. Déchirer les chairs à certains endroits, aux points faibles, entraînait une névralgie et réduisait les humains à l'impuissance. La violence de l'odeur et du désir du chauffeur, en revanche, l'avait hanté durablement, de même que la vision de son sexe dressé au-dessus de sa tête comme une arme. Sa mémoire contenait un certain nombre d'informations sur les relations sexuelles d'après la chute, que l'escato assimilait à la perte de l'innocence primitive, au commencement de la fin. Le prix à payer pour connaître un plaisir passager qui n'était finalement qu'une poignée de cendres de la fusion originelle, était exorbitant. La sexualité. La célébration de la dualité impliquait l'acceptation des cycles, donc la soumission au temps. Elle avait commis ensuite une imprudence étonnante en mangeant la gaufre prétendument offerte par les aquariotes. Même si elle n'éprouvait pas encore le besoin de reconstituer son énergie physique avec un apport de nourriture, elle s'était montrée incapable de résister à l'envie de mordre dans cette pâtisserie odorante en forme de cœur. Ingérer et digérer les aliments était également une forme de cycle, une autre prière d'insérer dans le temps, ou de s'insérer dans le temps. À l'issue de son combat silencieux contre le poison, la seule explication qu'elle avait trouvée à son impulsion était que la vie sur Terre engendrait des contraintes particulières, que les organes y avaient leur utilité, leur importance. Peut-être cherchait-elle à comprendre les derniers hommes à travers leur mode de survie ? Comprendre les hommes ou Solman ? Elle ne parvenait plus à chasser Solman de ses pensées. Elle n'en avait ni l'envie, ni la volonté. Un élan incompréhensible l'avait poussé à le veiller après son évanouissement dans l'église de la petite ville fortifiée, à le rejoindre dans la cabine du camion de tête, à rechercher sa compagnie, son contact. L'escato ne l'avait pas préparé à cette attirance, si duelle, si contraire aux lois de l'ultime évolution qu'elle avait l'impression de renier sa nature, de trahir l'ensemble des tribus par la même occasion. Solman l'entraînait irrésistiblement sur la pente humaine, dans la spirale fatale du temps. Au bout, il y avait le néant, la mort. Cela ne faisait pas l'ombre d'un doute. Or, elle avait parcouru le chemin de l'immortalité, comme tous les saints, comme tous les justes de l'escato. Elle vibrerait bientôt avec le cœur secret de l'univers. Elle brûlerait du feu infini qui sous-tendait la création. Pourquoi Benjamin lui avait-il imposé cette épreuve? La réponse s'était aussitôt dessinée. La sœur disparue n'a fait que jeter les bases, il te revient d'achever ce qu'elle a commencé. La tribu cherche à travers toi, à travers cette immersion dans la conscience individuelle, des réponses à une interrogation préoccupante, fondamentale. Des doutes ont fissuré les certitudes et troublé la pureté des enseignements de l'escato. Benjamin est-il le seul dans ce cas? Ou bien les autres tribus disséminées sur terre et dans les océans expriment-elles la même perplexité? Les autres tribus n'ont pas suivi le même cheminement, sans doute parce qu'elles n'ont jamais quitté l'atmosphère terrestre. Elles ont capté la fréquence de notre sœur disparue et se sont servies d'elle pour accélérer l'Apocalypse, l'œuvre de purification. Est-ce qu'elles se servent aussi de ma fréquence? C'est un risque que nous devons courir. Elle entendit soudain des cris, des jappements. Elle se leva et, sans prendre la peine d'épousseter la neige de sa robe, se dirigea vers la source des bruits, délaissant le petit tas formé par ses autres vêtements et ses chaussures. Le soleil dorait le bleu du ciel et illuminait le blanc des montagnes. La petite planète perdue dans un coin du disque galactique méritait en cet instant le titre que lui avait attribué l'escato. Le Nouvel Éden, la demeure pure des saints. Un risque. Elle avait jugé qu'elle devait s'éloigner au plus vite de la caravane aquariote. Elle avait parcouru en courant la succession de grottes et la galerie qui donnait sur l'extérieur. Elle devait maintenant trouver un moyen de mettre le peuple de Solman à l'abri des anges de l'Apocalypse. Utiliser la parole au besoin. Même si l'escato considérait la communication orale comme une erreur, comme une offense au silence majestueux de la création. Car telle était l'idée de Benjamin, telle était la raison de sa présence sur Terre. Il ne fallait à aucun prix que les derniers hommes disparaissent avant le rassemblement des saints. Or, ces aboiements retentissaient comme autant d'appels à l'extermination.